premier rendez-vous, Pauline Vrolix.
Un après-midi de personnalité, une première rencontre toujours singulière en direct sur La Première. Notre premier invité est un Genevois qui a pour mission l'enseignement des mathématiques. Les maths, une discipline qu'il choisit après avoir hésité entre le droit, la psycho et un cursus d'infirmier. C'est donc après des études dans l'université de sa ville que ce mathématicien s'engage dans la transmission de sa matière préférée. D'abord via des cours de soutien, puis au niveau du cycle d'orientation pendant 13 années, avant de continuer dans une école professionnelle durant 6 ans et maintenant, au collège Voltaire, collège Genevois ou ado, il étudie lui aussi. Auteur de plusieurs ouvrages, conférencier adulé, ce quadra est également père de 3 enfants et aussi le directeur de l'ARPA, l'association des répétitrices et répétiteurs de son canton. Longtemps avant l'algèbre, la fausse position sur les doigts jusqu'à 9999 et les 7 paires du calcul écrit sont les 3 livres qu'il a coécrits à ce jour. Notre deuxième invité est un homme bondissant. Cet Yverdonnois d'origine, lausannois de résidence, 42 ans, a pour pratique les claquettes. Formé à la danse classique depuis l'enfance, c'est à 13 ans, sur un air de jazz que ses pieds s'emballent en mode Fred Astaire. Une vocation qu'il n'a jamais cessé de préciser depuis. Il laisse tomber une carrière classique au conservatoire de danse de Berlin en 97, son métier d'ingénieur informaticien en 2013 et ose affirmer à plusieurs moments clés de son existence que la danse sonore, c'est son avenir, son feu et sa raison. 28 ans maintenant qu'il vit sa passion. Sa compagnie s'appelle Jazz et Tap. Il y rassemble musique, théâtre et claquettes. À l'affiche dans différents concerts spectacles, son prochain show s'intitule Panamericana Central. Ça sera à Sion au Théâtre Interface en novembre prochain. Notre premier invité est Jérôme Gavin. Notre deuxième invité est Laurent Bortolotti. Bienvenue dans Premier Rendez-vous.
De 14h à 15h, Premier Rendez-vous.
Bonjour Jérôme Gavin.
Bonjour.
Bonjour Laurent Bortolotti.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux.
Merci.
Jérôme Gavin, donc vous êtes un matheux, si j'ose dire. J'arrive même pas à dire 9999 parce que les chiffres, ça me fait peur à moi en général. On va voir si c'est l'occasion de votre premier rendez-vous. Un premier rendez-vous qui vous a beaucoup marqué, racontez-nous.
Alors j'ai sélectionné un premier rendez-vous qui a eu lieu le 14 juin 2010. Avec Alain Scherlig, avec lequel j'ai co-signé les 3 livres que vous avez cités. C'est quelqu'un dont j'admirais l'œuvre. Il a écrit plusieurs livres avant qu'on travaille ensemble.
C'est un ancien prof d'université, c'est ça?
Exactement.
Mathématicien.
Mathématicien également,
ouais.
De l'Université de Lausanne. Et en lisant un de ses livres, j'ai voulu lui écrire. Et au moment de j'ai écrit une lettre, et au moment de trouver son adresse, je me suis rendu compte qu'il habitait la commune où j'enseignais à mes élèves. Donc, j'ai repris la lettre et puis j'ai marqué à la fin qu'il était le bienvenu pour venir s'exprimer devant mes élèves, ce qu'il a accepté bien volontiers. Et il devait venir un lundi après-midi intervenir dans 3 classes. Donc je me suis dit que j'allais l'inviter à manger avant parce que c'est la moindre des choses. Au moment de réserver, je me rends compte que les restaurants du coin étaient fermés, donc je le rappelle pour lui proposer d'aller un peu plus loin. Et là, il me dit non, venez manger à la maison avec son épouse Annelise.
Comment dire? Il finit donc, par vous inviter. Ça
voilà,
va à l'envers.
Donc ouais. C'est le premier rendez-vous. Il vient donner des conférences et en fait, je me retrouve juste avant à manger chez lui. Avec son épouse.
Et puis c'est le début d'une grande amitié, puis d'une collaboration professionnelle aussi qui existe depuis 8 ans maintenant.
Exactement. Alors ça viendra plus tard, mais la graine qui a été plantée, c'était lors de ce premier rendez-vous.
André Scherlig, c'est bien ça.
Alain Scherlig.
Alain Scherlig. Ben voilà. Merci beaucoup pour ce premier rendez-vous, Jérôme Gavin. Je me tourne vers vous, Laurent Bortolotti, un premier rendez-vous qui vous a beaucoup marqué. Racontez-nous.
Oui. Alors moi, un premier rendez-vous qui a été important pour moi n'a pas été avec une personne physique. Ça a bien été avec une personne, mais ça a été à travers sa musique. Et il s'agit de Benny Goodman, qui était un jazzman, clarinettiste des années 30. Et lorsque j'ai découvert sa musique, pour moi, c'est comme de révéler quelque chose qui était déjà présent en moi. Donc c'était un premier rendez-vous très important, parce que c'était un premier rendez-vous avec moi-même, en quelque sorte.
Donc ça vous a ouvert, entre guillemets, votre vocation, c'est ça?
Oui, absolument.
C'est quoi, en fait, Laurent Bortolotti? Je disais en introduction que, en fait, le jazz vous permettait de danser.
Oui, le jazz, ça me porte à danser, mais le jazz, c'est comme quelque chose qui m'habite. Mais si vous voulez, ça n'est pas juste le mouvement à travers le jazz, je dirais. Le mouvement à travers cette musique, c'est une chose qui m'habite.
Bon, vous nous faites un petit cliché de ce moment où vous écoutez cette musique pour la première fois. À quoi ça ressemble autour de vous ?
Alors, donc ça s'est passé comme ça. Donc, dans l'énorme discothèque de mon père, qui a des centaines de disques de musique classique, il y avait
Benny Goodman,
Glenn Miller, Duke Ellington, trois disques de jazz, et celui que j'ai choisi, j'ai écouté les trois, et celui qui m'a le plus parlé, c'était Benny Goodman. Entre autres, une de ses compositions qui s'appelle Sing Sing Sing, qui est un classique du genre. Et moi, donc, j'ai mis cette musique-là, j'ai commencé à danser là-dessus, dans le salon de mes parents, quand ils n'étaient pas là. Mm-hmm. Et vous voyez, c'est ça qui m'a plus tard porté à faire des claquettes.
Intéressant, oui. Laurent Bortolotti, on entend là-dessous nous un peu de Benny Goodman, justement. Je ne suis pas sûre que vous l'écoutiez aussi, parce que vous n'avez pas les casques, mais voilà. Vous êtes armés de vos casques, tous les deux, allez-y. Un petit clin d'œil de José Moreno en régie qui a vite sorti cette musique pour vous remettre dans l'ambiance. Voilà.
C'est Sing Sing Sing, ce qu'on entend là. C'est justement Sing Sing Sing
dont
je parlais.
Donc vous étiez dans le bureau de... Le salon.
Le salon, voilà. Et moi, je dansais là-dessus.
Et puis, on imagine aussi que vos parents, ils n'étaient pas forcément très chauds pour que vous fassiez des claquettes, c'est ça ?
Effectivement, ça a été une longue conquête pour moi, une longue conquête... d'indépendance, oui, absolument.
Bon, on va peut-être découvrir ça un peu plus tard dans l'émission. Laurent Bortolotti, Jérôme Gavin, merci pour ces premiers rendez-vous respectifs. On va passer maintenant à l'étape du speed dating, qui est une étape importante dans Premier Rendez-vous pour que vous puissiez vous poser des questions et vous découvrir un peu. Laurent Bortolotti, je vous donne 2 minutes pour en savoir plus sur Jérôme Gavin. C'est parti, c'est à vous.
D'accord. Donc, vous me permettez que je vous appelle Jérôme ?
Bien sûr.
D'accord. Donc, j'ai compris que vous étiez mathématicien, c'est juste ?
Exactement.
Je veux juste déjà résumer si ce que j'ai compris est correct. Donc, vous enseignez les mathématiques.
Exact.
Et vous avez étudié les mathématiques...
À l'Université de Genève.
À l'Université de Genève. Voilà, d'accord. Ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est... Donc, vous avez hésité entre plusieurs carrières, hein, comme j'ai compris ça.
Exactement.
Et ouais. En fait, ce qui m'intéresserait beaucoup de savoir, c'est pourquoi est-ce que vous avez opté pour les mathématiques, au final ?
Ben, c'est difficile à dire. C'est vrai que j'étais curieux de beaucoup de choses très différentes. Et puis, sans doute, la dernière année que j'ai vécue au collège, correspond au gymnase, dans Dante-Coton ou au lycée, a fait que j'ai noué avec cette discipline une relation particulière qui, au moment de... J'ai pris une année à la fin du collège, une année sabbatique. J'ai vu pas mal de choses. Puis, au moment de sauter, un peu... comme quand on hésite entre plusieurs voies, ben j'ai pris celle-ci pour mon plus grand plaisir. Maintenant, qu'est-ce que ça aurait donné si j'en aurais pris une autre ? J'en sais rien.
Qu'est-ce qui vous passionne dans les mathématiques ?
Ben, d'abord, les mathématiques, elles sont toujours surprenantes. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que je les étudie, que je les transmets, et puis je suis toujours surpris. D'une semaine à l'autre, on a tout d'un coup des résultats tout simples qui sont très étonnants. Certains sont intuitifs, d'autres pas du tout intuitifs. Et puis, ce que j'étudie plus particulièrement quand on fait des recherches, c'est l'histoire du calcul. C'est des choses très simples qui remontent très longtemps en arrière et c'est des sortes d'enquêtes qu'on mène pour essayer de retrouver la manière dont ça a été effectué.
Est-ce que je vous comprends bien si je dis que ce qui vous passionne, c'est la créativité ?
Exactement.
Qu'on trouve dans les mathématiques, l'imagination, l'inventivité qu'il faut pour développer en fait tous ces outils.
Ouais, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que vous dites, c'est que effectivement, faire des mathématiques, c'est très créatif. Alors c'est rigolo parce que vous faites aussi quelque chose qui est évidemment très créatif, mais les contraintes sont un peu différentes. Vous, j'imagine évidemment que votre contrainte, elle est d'ordre d'esthétique. Il faut que ce que vous créez plaise à des gens pour que vous puissiez en vivre et puis le montrer, alors qu'en mathématiques, la contrainte, elle est d'ordre logique. Il faut que ce qu'on fasse tienne la route d'un point de vue logique.
Oui, allez-y, Jérôme Gavin, je ne veux pas vous interrompre.
Mais à part ça, la liberté qu'il y a derrière, c'est-à-dire la possibilité d'aller dans les directions qu'on veut du moment qu'on respecte les contraintes respectives, elle, je pense qu'il y a une accointance.
Un premier point en commun entre vous deux, Jérôme Gavin, Laurent Bortolotti, c'est la créativité. Merci de l'avoir lancé là-dessus, Laurent Bortolotti. D'ailleurs, on est arrivé à la fin de ce speed dating.
Oui.
Mais je vois que vous avez encore plein de questions. Oui. C'est magnifique.
J'ai même une question que j'aimerais que vous me posiez. Parce que vous avez, en fait, j'aimerais que vous me questionniez sur quelles sont mes contraintes. Parce que vous avez parlé des contraintes que vous pensez être les miennes. J'aimerais bien vous répondre là-dessus. Donc, vous pouvez me questionner là-dessus.
Bon, bah, alors,
si mes contraintes sont vraiment celles-là.
Écoutez, Laurent. J'ai une question qui me brûle les lèvres.
Alors, est-ce qu'on lance le speed dating inversé? Allez, go.
Dans votre sens.
C'est parti, bon. Jérôme Gavin, c'est votre tour.
Voilà, donc j'ai très très envie de vous poser une question, Laurent.
Oui.
C'est quelles sont vos contraintes dans la créativité liées à ce que
Alors,
vous faites?
Je vous remercie beaucoup de me poser cette question. Alors, en fait, il y a beaucoup de contraintes qui sont imaginaires. Celle dont vous parlez là, pour moi, est une contrainte imaginaire qui fait partie de ce que j'ai. Je dirais, c'est une contrainte que j'ai pensée qui était vraie. Et en fait, ça n'est pas une contrainte. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de contrainte. Je dirais la seule limite que je rencontre dans ma créativité est celle que je me mets. Donc en fait, la créativité est illimitée. Maintenant, si on voulait parler de contraintes, il y a bien sûr des contraintes. C'est que je travaille avec des gens, donc je dois prendre en considération les besoins des autres, de mes collaborateurs. Ensuite, lorsque je présente le spectacle, il y a plein de problèmes de budget qui sont aussi des contraintes. Et puis, donc, évidemment, il y a des contraintes matérielles. Mais par rapport à la créativité, moi, je n'en vois pas, je n'en vois plus. Parce que j'ai appris, au travers de mes expériences, j'essaye de m'en libérer le plus possible. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'avais envie que vous me posiez cette question. C'était pour vous répondre ça.
Bon, alors, Jérôme Gavin, il vous reste 40 secondes. Allez, un petit peu moins pour poser une question de votre cru. Allez-y.
Alors, d'abord, merci pour la réponse parce qu'elle était très intéressante. Quelque chose de beaucoup plus terre à terre quand on fait des claquettes comme vous.
Mm-hmm.
Au niveau des relations de voisinage, est-ce que ça pose quelques tensions? Je sais pas, vous habitez une maison, un immeuble?
Ça dépend des pays. Vous savez, parce que j'ai eu l'occasion de pratiquer cela dans d'autres pays, entre autres en Amérique centrale, et en général, là, ça donne plutôt lieu à des rencontres. Mais sous nos latitudes, je dois prendre certaines précautions, en effet, donc je ne pratique pas les claquettes chez moi. J'ai un local où je le fais, en effet, oui. Donc voilà comment j'ai résolu ce problème.
Merci, ça tombe bien, on est arrivé au bout de ce speed dating, Jérôme Gavin. À moins que vous ayez une autre question brûlante comme ça sous le coude, je reprends la main.
Je vous la laisse reprendre.
Eh bien alors, c'est super. Laurent Bortolotti, vous avez étudié les claquettes, notamment à New York. C'était juste après une période où vous avez osé affirmer justement à vos parents que en fait la danse ce serait votre vie et il en serait ainsi. Racontez-nous.
Oui, alors en effet... Attendez, parce que là, il faut que je reprends, il faut juste que je reprenne un petit peu le fil des choses. Excusez-moi si je patine un peu. C'est que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. J'ai quitté mon milieu familial à l'âge de 17 ans, mais pas pour cette raison-là. Donc en fait, je n'ai jamais eu à dire ça, à vivre cette situation face à mes parents, mais face à moi. Oui, par contre, j'ai pris cette décision.
C'était pas forcément évident de dire je veux faire de ma vie les claquettes.
Oui.
Et inversement.
Oui, c'était pas évident, oui.
Mais même aujourd'hui, on se dit être danseur de claquettes, il faut quand même être vraiment très doué pour pouvoir y arriver. Parce que vous êtes Laurent Bortolotti. En plus, ça concerne, oui. Vous avez l'air d'avoir 25 ans, vous en avez 42. C'est quand même un mystère de la science.
On a bien ri dans l'ascenseur avec ça.
Je croyais pas que c'était vous.
Oui. Mais non.
Non, Jérôme Gavin, justement. Vous êtes dit la même chose aussi?
Oui, effectivement, je confirme. On a pratiquement le même âge, mais vous paraissez beaucoup plus
comme
jeune.
Quoi, quand on suit sa passion. Mais vous aussi, Jérôme Gavin, c'est ça qui est fou. Juste avant de commencer l'émission, vous étiez absolument adorable. Vous étiez en train d'apprendre, en fait, une manière de calculer très ancienne à notre réalisateur de l'émission, José Moreno. En fait, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Dès que vous avez 5 minutes, vous essayez de transmettre les mathématiques. C'est vraiment profondément ancré en vous, alors.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est... Ouais, les mathématiques coulent dans mes veines. Et puis, la transmission, c'est quelque chose de passionnant parce que... parce que c'est une branche derrière laquelle il y a beaucoup de mythes, de peurs, hein, d'appréhension.
Mais rien que moi, le fait de dire des chiffres, des fois, ça m'inquiète, en fait.
Oui, et puis de pouvoir partager ça, de pouvoir voir le regard de certaines personnes qui changent par la discussion, c'est super, c'est extraordinaire à vivre.
Ce qu'il y a de particulier avec votre parcours, Jérôme Gavin, c'est que vous avez décidé aussi de prendre tout un aspect historique, c'est l'histoire de l'algèbre, c'est l'histoire de cette science-là. D'ailleurs, petite devinette pour vous, Laurent Bortolotti, en quel siècle est arrivé l'algèbre tel qu'on le connaît aujourd'hui en Europe, pensez-vous ?
C'est une bonne question. L'algèbre, parce que je sais que la géométrie date de l'Antiquité, mais l'algèbre avec le zéro et tout ça, vous voulez dire ?
C'est arrivé à peu près au même moment. Hein.
Ah,
c'est-à-dire
oui
que les nouveaux chiffres et le tout début de l'algèbre voyagent, transitent un peu au même moment.
D'accord. J'imaginais que l'algèbre était arrivée plus tard, vous voyez.
Bon, dans quelle époque alors, Jérôme Gavin ?
Alors, en Europe, c'est au début du XIIIe siècle. Et puis avant que ça ressemble à quelque chose qu'on pourrait trouver dans des livres d'aujourd'hui, on serait au XVIe, XVIIe siècle. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Il y a une chose spectaculaire, c'est que le premier signe plus qui apparaît dans l'histoire, c'est en 1489.
Et pour quelle raison ?
Avant, on n'utilisait pas un signe abstrait pour exprimer une addition.
Qu'est-ce qu'on utilisait ?
On écrivait plus. Certains auteurs, tout d'un coup, vont peut-être mettre un P pour essayer d'abréger et puis d'écrire moins. Ou bien, autre chose, et. Donc évidemment, ça montre qu'on fantasme beaucoup l'histoire des mathématiques et quelque chose d'aussi simple qu'une addition, telle qu'on la verrait aujourd'hui dans un livre scolaire, ça n'est arrivé que très tardivement.
Et ce petit plus-là, alors, il vient d'où exactement ?
Alors, c'est un auteur qui s'appelle Johann Widmann, un auteur allemand. Qui l'a mis dans un livre qu'il a écrit, mais pas pour indiquer une addition, pour indiquer le fait, quand on fait un essai, de tomber trop haut par rapport à la solution du problème.
Comment ça, Jérôme Gavin, tomber trop haut?
Parce que avant l'algèbre, parce qu'évidemment, si l'algèbre est arrivé tard, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on faisait pour résoudre des problèmes.
Donc c'est là que c'est la fausse position qui arrive. C'est votre ouvrage numéro 1, c'est ça?
Exactement.
Qu'est-ce qu'une fausse position?
Alors une fausse position, c'est le fait d'essayer une valeur dans un problème. Et puis de regarder si le résultat est juste. Si le résultat est juste, c'est super. On a résolu le problème et puis c'est ce qu'on voulait. Et lorsque c'est faux, soit on est dans un cas assez simple où on va trouver la solution par un procédé assez rapide, soit on est dans un cas un petit peu plus compliqué. Dans ce cas-là, on va regarder à quelle distance de la solution on se trouve. Est-ce qu'on est trop haut ou est-ce qu'on est trop bas? Et pendant des siècles, pour dire trop haut ou trop bas, on a utilisé des mots où les Arabes utilisaient une balance en écrivant le résultat au-dessus ou en dessous. Et puis tout d'un coup, il y a un auteur qui a dit... je vais inventer un signe, c'est le plus.
Et ça, dans l'histoire, ça permet quoi, en fait ? C'est tout à coup l'histoire du commerce qui se simplifie ou...
Alors, c'était des procédés qui permettaient de résoudre des problèmes de type commerciaux. On trouve ça dans des arithmétiques commerciales. Et en fait, sur la fausse position elle-même, cette invention-là, elle ne va pas avoir un impact très important. Par contre, c'est un petit côté romantique de cette histoire. Au moment où cet auteur fait ça, c'est pour améliorer un procédé qui régnait en maître sur la résolution de problèmes, il est en train de donner des armes à son concurrent, qui est l'algèbre, auquel il manquait une efficacité qu'elle n'avait pas. Parce que si vous lisez un traité d'algèbre du 15e siècle, c'est affreux, c'est incompréhensible. Il y a beaucoup de lourdeur, c'est très très long. Et il manquait un petit peu ce symbolisme qui va permettre d'améliorer les choses.
En tout cas, ça coule de source pour vous, Jérôme Gavin. Je rappelle le titre de cet ouvrage, « Longtemps avant l'algèbre, 2 points, la fausse position » ou « Comment on a posé le faux pour connaître le vrai des pharaons au temps moderne ». C'est vous, Jérôme Gavin, avec Alain Cherlig, aux Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. Voilà un premier ouvrage qui se vend bien, je crois, hein, qui passionne les foules.
Ouais, je crois qu'on ne le trouve plus, alors il est épuisé, ça me semble-t-il.
Et puis vous en parlez régulièrement dans des conférences, on y reviendra. De votre côté, Laurent Bortolotti, est-ce que les claquettes, c'est un peu comme faire des maths aussi, d'une certaine manière ? Parce qu'il faut être dans un certain tempo. Est-ce que vous avez comme ça des chiffres en tête quand vous dansez ou pas ?
Alors, comme j'ai appris la musique à travers la danse, à claquettes, la danse de claquettes, et de manière complètement intuitive, oui, j'ai créé pour moi une représentation du rythme, une représentation symbolique, mathématique du rythme.
Alors, comment ça se passe ?
Alors, le premier système que j'avais fait, si vous voulez, consistait à écrire simplement, par exemple, si, voyez, si je vous frappe le tempo comme ça et que je vous dis un rythme qui fait 1 et 2, 3 et 4, mon premier système consistait à écrire 1 et 2, 3 et 4. Et ensuite, j'étais toujours embêté pour décrire, donc là je vous parle de la fin des années 90, donc j'avais pas de vidéo, donc j'étais obligé d'écrire mes chorégraphies pour m'en souvenir. Et donc après j'ai amélioré mon système pour, parce qu'avec ce système-là, vous écrivez en ligne et c'est difficile de décrire, oui mais qu'est-ce que je fais avec la jambe gauche, qu'est-ce que je fais avec la jambe droite, qu'est-ce que je fais avec mon corps, et etc. Alors j'ai fait un système sur 4 colonnes, que je lisais comme ça face à moi, donc tout à gauche la jambe gauche, première colonne, ensuite la jambe droite, la troisième colonne le rythme, et la quatrième colonne des indications chorégraphiques. Alors par exemple, 1 et 2, j'écris 1, dessous et dessous 2, et ainsi de suite, avec les mouvements correspondants sur les colonnes qui sont en face. Donc je décrivais mes chorégraphies de cette façon-là, et ça marchait assez bien, parce que avec ce système-là, j'arrivais, on a un coup d'œil à savoir ce que je devais faire avec mes pieds, vous voyez.
C'est intéressant, Laurent Bortolotti, parce que vous avez aussi un diplôme d'ingénieur en informatique, donc j'imagine qu'il y a quelque chose aussi qui se ressemble, non, dans les 1-0 de l'informatique,
oui,
et dans la manière de transcrire une partition, une chorégraphie de claquettes.
Oui, disons toute proportion gardée, parce que c'est pas ce qui se ressemble, c'est mon approche, c'est que j'aime bien, si vous voulez. Comment vous décrire ça ? Du chaos sort l'ordre, vous voyez ? Et en fait, ça marche partout.
Ça plaît beaucoup à Jérôme Gavard.
Ça marche partout. C'est-à-dire que cette vision que j'ai là, c'est qui est dans. Je veux pas dire que l'informatique c'est ça, mais toutes les bonnes idées que j'ai eues, en général, ça passe par une phase de chaos. Que ce soit au niveau informatique, lorsque je pratiquais ce métier-là. Ou bien dans mes chorégraphies, ou dans cette façon de, même dans cette façon de noter, elle est passée par plusieurs étapes. Mmh. Voilà.
Allez-y, Jérôme Gavard.
J'ai une question. Le système que vous venez de décrire, vous avez pu le partager avec des personnes, ou c'est vraiment un système qui est propre à vous ?
Alors c'est un système qui est propre à moi. J'ai jamais réussi à l'utiliser comme une partition, comme un musicien. J'en ai même jamais eu besoin, parce que les claquettes sont une tradition orale. Donc j'en avais uniquement besoin pour des questions de mémoire, parce que ma mémoire me fait défaut quand j'ai beaucoup beaucoup de choses à mémoriser. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais.
Jérôme Gavard, du chaos sort l'ordre. Cette phrase vous a tout à coup pouf illuminé le visage.
Oui, parce que la théorie du chaos, ces phénomènes chaotiques, on a toujours cette image du battement d'ailes d'un papillon qui peut déclencher un orage à l'autre bout du monde. Mais derrière ces théories-là, il y a aussi le fait que des phénomènes chaotiques peuvent déboucher sur à la fin quelque chose dont on connaît la finalité. Le meilleur exemple, c'est quand vous buvez un café, vous faites couler la crème sur la cuillère qui est dans le café. Au moment où votre crème va entrer, pénétrer dans le café, ce qui se produit est un phénomène chaotique.
Mais des volutes comme ça de crème dans
exactement,
le café.
Exactement, ouais. C'est assez fascinant à regarder.
Mais
du reste, on peut regarder. Et vous ne pourrez pas prédire ce qui va se passer, parce que c'est tellement sensible aux conditions initiales qui sont dans la pièce, qui sont un petit peu partout, qu'on est dans un phénomène qui est... Mais par contre... Après, une fois que vous aurez brassé, le final sera une substance
prévisible,
exactement. Donc, il y a en même temps, par moment, quelque chose de très imprévisible. C'est ce qui est populaire, c'est ce qui est derrière cette théorie. Mais il y a aussi, ça peut déboucher au final sur des choses qui sont parfaitement prévisibles et sans surprise. C'est le cheminement qui est imprévisible. Par contre, la finalité, parfois, elle est tout à fait prévisible.
Mais vous avez l'impression que vous êtes dans une perception de la vie où au final, les choses sont explicables et donc sont rassurantes, ou est-ce que c'est justement le contraire ?
Ah ben, alors ça, c'est une grande question philosophique des mathématiques, hein. C'est toujours de se dire, est-ce que finalement, on est dans un monde qui est écrit en langage mathématique et on ne fait que que le découvrir finalement?
L'accomplir,
ou bien,
ouais.
Ou bien est-ce que les mathématiques, c'est une création artificielle qui permet de bien expliquer?
Et votre avis là-dessus, Jérôme Gamin, vous qui êtes mathématicien?
Je ne vais pas vous répondre.
Oh, bah, vous êtes en premier rendez-vous, je vais vous forcer à répondre.
On peut laisser planer le mystère. Je trouve que les.
Pour moi,
c'est une question. Bah, ça dépend en fait de l'angle. C'est une question de. On parlait de créativité avant. C'est-à-dire que c'est un carburant. On peut. Pour certaines personnes, le fait de se dire qu'on est dans la création soi-même, une invention propre à l'homme, ça va constituer un carburant qui est meilleur que le fait qu'on soit dans la découverte de quelque chose qui est déjà là sous nos yeux. Mmh. Et moi, ça dépend les domaines. Donc je passe d'un mode à l'autre, selon les moments. Il y a des moments où je me dis, mais tout est écrit en langage mathématique, puis il y a d'autres... Finalement, ce n'est qu'une construction de l'homme.
Bon, les constructions humaines versus peut-être une fatalité ou comme ça un destin, on le saura peut-être tout à l'heure ou pas. Mais maintenant, c'est une chanson exprès pour vous, Jérôme Gavin. C'est les Doors, la première. Riders in the Storm.
Deux invités en une heure, leur premier rendez-vous.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Les Doors sur la première, Riders on the Storm, on part tout de suite sur la route.
Infotrafic RTS.
Quelle que soit votre direction, la prudence est toujours de mise sur l'axe Genève-Lausanne en raison de la présence de piétons entre Gland et Rolle. Et sur l'autoroute Lausanne-Vevey, la circulation est toujours fortement ralentie entre l'aire de service de Lavoux et Chèvre en direction de Vevey. Vous écoutez Premier Rendez-vous, il est 14h32, aujourd'hui dans l'émission Laurent Bortolotti de la compagnie Jazz et Tap, danseur de claquettes, et puis Jérôme Gavin, mathématicien, auteur et conférencier, également enseignant au collège Voltaire à Genève et directeur de l'ARA, l'association des répétitoires à Genève. Laurent Bortolotti, on le disait tout à l'heure, vous êtes aussi ingénieur informaticien de formation, même si c'est depuis 28 ans que les claquettes habillent votre vie et vous font, comme ça, une mine super superbe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis Jérôme Gavin, grand passionné des maths, on se posait des questions philosophiques de haut vol tout à l'heure. Ce Riders in the Storm des Doors, pourquoi il vous plaît tellement cette chanson qu'on vient d'écouter?
Alors moi je suis pas un grand mélomane comme vous, mais c'est un groupe que j'ai découvert quand j'étais jeune, les Doors, et c'est une chanson que j'adore. Elle a une sorte de quiétude, de bienveillance qui me plaît beaucoup.
Et qui vous caractérise, Jérôme Gavin. Laurent Bortolotti, on n'a pas pu s'empêcher de vous demander de nous faire un petit numéro de claquette. Alors, vous allez nous le faire, si c'est possible?
Oui, alors...
Et en plus, attendez, je peux juste préciser, vous êtes un héros de venir dans cette émission aujourd'hui. Hier, vous étiez à l'hôpital pour une angine.
Oui,
vous
c'est
êtes
vrai.
Vraiment super d'être là aujourd'hui. Et en plus, on vous force à faire des claquettes sur une étagère.
Oui, vous avez trouvé un bout d'étagère sur lequel je vais maintenant tenter
parti.
De faire une petite démonstration.
Allez, claquons la claquette avec vous, Laurent Bortolotti. Alors... C'est parti. Merci Laurent Bortolotti à la claquette. C'était
Bravo.
Quoi? C'était quelque chose de spécifique que vous avez fait là ou une improvisation?
Non, c'était une improvisation que j'ai fait là.
Et est-ce que vous faites toujours de l'improvisation dans vos spectacles?
Beaucoup,
ou pas?
Oui, beaucoup. L'improvisation, c'est ce qui me passionne le plus, j'ai envie de dire, dans les claquettes et même dans des autres, dans des autres arts. Et j'ai même un projet dans lequel je tente de remplacer, c'est un trio jazz dans lequel je tente de remplacer la batterie par des claquettes. Et donc évidemment dans ce projet-là,
vous devenez la percussion.
Je deviens la percussion et donc l'improvisation est au centre de mon travail.
On va écouter une tranche de votre travail, ça s'appelle Le chant de l'équinoxe. Vous nous présentez ce morceau qui vous fait
oui.
aussi une partie de vos spectacles?
Oui, alors en fait donc c'est mon ami, c'est un ami avec lequel j'ai travaillé de nombreuses années, qui s'appelle Guillaume Martineau, qui vit à Montréal, qui a composé cette pièce. Et donc ce que vous allez entendre là maintenant est de l'improvisation sur une pièce qu'il a composée, qui s'appelle, comme vous l'avez dit, Le chant de l'équinoxe.
C'est parti sur la première. Jérôme c'est pas du tout ça, vous êtes Laurent Bortolotti, pas Jérôme Gavin. Voilà, on vous écoute en ce moment en train de faire des claquettes sur ce titre.
Oui.
Et vous expliquez justement à l'instant à Jérôme Gavin, en fait, pourquoi c'était si difficile, expliquez-nous.
Alors, ce qui était un challenge pour moi sur cette musique-là, c'est que le tempo de cette composition, il n'est pas métronomique. C'est-à-dire qu'il a tendance, pour des questions d'interprétation, à changer, à varier, voyez. Donc ça veut dire que je dois être extrêmement attentif à ce que joue le pianiste pour l'accompagner, pour rester synchrone avec lui. Vous voyez, je peux pas juste suivre mon propre rythme. Je dois vraiment me caler sur son tempo à lui.
Ouais, donc vraiment une histoire de lien, d'attention et puis de
complètement d'écoute. Oui, d'écoute.
Vous serez en spectacle le 21 novembre avec le projet Bébés Machine au Phoenix à Fribourg, c'est un spectacle-concert. Et puis aussi le 29 et 30 novembre, plus le 1er décembre au Théâtre Interfaçation avec un tout autre projet. Ça s'appelle Panamericana Central. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le premier projet dont vous avez parlé est un projet d'improvisation avec deux personnes, mais trois musiciens. Donc, c'est-à-dire que... Le premier.
Un problème mathématique.
Oui, oui. Alors, est-ce que vous arriveriez à résoudre ce problème? Quel serait le...
J'aurais tendance à dire, il y a une personne qui joue le rôle de deux musiciens.
Ça n'est pas une personne. C'est un ordinateur.
D'accord.
Il y a un ordinateur en plus.
Ça, c'est donc... votre passé d'ingénieur en informatique?
Non, alors pas du tout. Alors, ça peut peut-être vous surprendre, mais je suis pas du tout branché technologie okay. dans l'art.
D'accord.
Donc, c'est pas du tout quelque chose qui me motive dans mes créations. Donc, c'est mon collègue dans ce projet qui s'appelle Denis Beret, qui est tromboniste, qui lui est passionné par la musique, par l'utilisation de l'électronique dans la musique, qui a fait un programme qui devient le troisième musicien du projet. Donc en gros, c'est claquettes, trombone et informatique. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que l'ordinateur, le programme qu'il a écrit, l'ordinateur commence par écouter ce que font les musiciens avant de faire des propositions. Donc c'est quelque chose d'assez qui sort de l'ordinaire, dans le sens que j'ai eu l'occasion de faire d'autres expériences avec de la musique électronique où l'ordinateur imposait son tempo. Là, c'est l'inverse en fait. L'ordinateur commence par écouter, fait des propositions, que ce soit rythmique ou même il fait aussi beaucoup de propositions harmoniques après avoir écouté les deux musiciens. Donc en fait, il y a des capteurs par terre sur le plancher de claquettes, des capteurs sur le trombone, et en fonction de ce que je fais,
s'adapte.
La machine va faire des propositions.
Ça, c'est voilà. Bébés Machine, ça sera le 21 novembre au Phoenix à Fribourg, et puis le Panamericana Central.
Alors ça, c'est. Je vais avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour vous expliquer de quoi il s'agit.
Bon, bah, alors on se lance.
On y va. Je vais tâcher d'être court et concis pour pas prendre trop de temps, mais en fait, il y a deux ans, j'ai eu l'envie de faire un voyage qui consistait à aller de Managua. Donc, Managua est la capitale du Nicaragua. Le Nicaragua est un pays pour ceux... Enfin, moi, je vais le dire où il se trouve, parce qu'à la base, moi, je savais pas du tout où était le Nicaragua. Je situais ça quelque part en Afrique.
C'est très bien.
Alors que pas du tout, c'est en fait tout près du Panama. C'est au nord du Panama, au nord du Costa Rica, pour être tout à fait précis. Donc, j'ai eu cette envie de faire ce voyage qui consistait à aller de Managua jusqu'à Jalapa, qui est une ville qui se trouve au nord du Mexique, en bus, avec une petite planche de claquettes sous le bras, et puis de danser les claquettes partout où je m'arrêtais, dans la rue, et de voir. Donc je parlais pas l'espagnol, hein, sans parler l'espagnol, et de voir ce qui allait se passer. Et donc en fait, j'ai fait ça, et j'ai rencontré énormément de monde, et les gens étaient toujours extrêmement enthousiastes de me voir faire ça. Bien sûr, j'ai utilisé aussi Facebook, Internet pour rencontrer les gens locaux, les artistes locaux. Et j'ai fait une sorte de petit documentaire de ce voyage que j'ai présenté au Théâtre Interface. Et eux ont trouvé ça super, et m'ont proposé une résidence chez eux, après que j'aurais mon Assion. Donc, je suis retourné en Amérique centrale, et j'ai refait le même voyage au début de cette année avec cette idée peut-être on pourra faire quelque chose. Hein. Et donc j'ai rencontré les mêmes personnes et plus encore, et de nouvelles personnes. Et j'ai revécu plein d'expériences humaines et artistiques. Et à la suite de ça, eh bien, en fait, cette résidence à Sion s'est confirmée. Donc ça va être avec ces gens-là que j'ai rencontrés là-bas. En Amérique centrale, donc il y aura deux danseurs du Guatemala qui vont venir, un saxophoniste aussi qui va venir du Mexique pour cette résidence, plus encore du monde que je vais faire venir
des Pays-Bas.
Alors
là, on n'est plus tellement sur la panaméricaine.
Non, mais ce sont des gens qui ont des liens très forts avec le Mexique, avec l'Amérique centrale.
Alors, Panamericana Central, merci pour ces explications. Effectivement, c'était très utile de les donner, comme ça on comprend bien d'où ça vient et pourquoi vous le faites. Ce sera le 29 et le 30 novembre, plus le 1er décembre, au Théâtre Interfaçation. On se réjouit, Laurent Bortolotti, c'est sous l'égide de votre compagnie Jazz Étape, c'est correct?
Tout à fait, exactement.
Et Jazz Étape, c'est aussi un site hyper complet, vous recensez tous vos projets. Je vous laisse vous donner le site.
L'adresse du site,
oui,
si vous voulez dire. Donc, c'est www.tapdance, claquette au pluriel, .org.
auditrices et auditeurs, voilà, avertis.
Merci.
Alors, vous parliez, Laurent Bortolotti, en fait, des claquettes comme créatrice de liens. J'ai envie de dire, Jérôme Gavin, avec les mathématiques, ça, c'est votre dope à vous, si j'ose dire. Eh bien, ça crée des liens aussi, hein?
Exactement, ouais.
C'est ça que vous faites, et c'est ça qui vous rend aussi, entre guillemets, tellement, on va dire, curieux, c'est qu'avec les mathématiques, vous arrivez à engager avec toutes sortes de moyens, par exemple avec vos doigts. Expliquez-nous.
On a écrit un livre sur ce qu'on a appelé la numération digitale, qui était une manière de représenter des nombres sur une main, en allant de 1 à 99.
Donc en fait là, l'index poussé, c'est pas heptaxi, c'est quoi?
Alors ça dépend la position des autres doigts. C'est-à-dire que ça veut rien dire, mais je sais pas si je vous fais ça. Par exemple, ça va être 53.
Donc là, vous avez 3 doigts repliés à la moitié, plus l'index complètement tendu et le pouce aussi plié à la moitié.
Voilà, donc ça serait un 53 par exemple. Et donc c'est quelque chose qui est pas du tout naturel, comme la façon de compter des enfants, hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de souci. Mais on s'est rendu compte que pendant à peu près un millénaire, toutes les civilisations autour de la Méditerranée ont montré sur une main n'importe quel nombre entre 1 et 99. Et par effet miroir, sur les deux mains, entre 1 et 9999. Alors c'est très curieux parce que c'est pas du tout intuitif, hein. Un c'est comme ça, enfin là je vais pas vous montrer en la radio, mais ce qui est très étrange.
Bah, allez-y, le 1, là je suis quand même curieuse, et puis vous décrivez.
Pour faire un 1, on va plier l'auriculaire, hein, de la main gauche, dans l'extrémité de la paume. Donc on va le plier en 3. Il faut généralement s'aider d'un doigt parce que c'est pas du tout naturel.
Ouais, effectivement.
Mais ça c'est 1. Ensuite pour faire 2, on va rajouter l'annulaire, et pour faire 3, qui est peut-être le plus facile à faire, on plie le majeur, l'annulaire et l'auriculaire dans la jointure de la paume.
Et ensuite, c'est
3.
Donc ensuite, on voit 3 petits ongles dans la paume de
exactement,
la main.
Exactement, voilà. Et les doigts doivent être pliés en 3. Ensuite, pour faire 4, on va monter l'auriculaire. C'est un geste qu'on voit dans les concerts de hard rock. 5, on monte l'annulaire, donc on n'a plus que le majeur qui est plié. Et pour faire 6, on va plier l'annulaire seulement dans une main ouverte.
On pourrait croire que vous êtes un rappeur de la West Coast, Jérôme Gavin.
Exactement.
En fait,
exactement.
Vous faites des maths.
Voilà. Et puis ensuite, pour faire 7, 8, 9, on va de nouveau plier respectivement d'abord l'auriculaire, puis l'annulaire avec et le majeur, mais cette fois pas dans la base de...
Mais plus surélevé, voilà.
Mais on va aller au milieu de la paume. Donc ça, c'était 9.
Oh là là,
donc
mais
un
ça
9
a l'air
se
terriblement
ça.
Compliqué, hein, je dois vous avouer, c'est parce qu'on n'est pas habitué, je pense.
Exactement, parce que évidemment les témoignages qu'on a retrouvés montrent que c'était couramment utilisé. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que l'époque à laquelle c'était utilisé, évidemment autour de la Méditerranée, on est dans des civilisations qui ne parlent pas les mêmes langues, mais ils ne parlaient pas non plus ils parlaient pas non plus les mêmes chiffres. Alors c'est un peu étrange comme façon de voir les choses, mais en fait les systèmes de numération étaient très différents. Dans les pays arabes, le système de numération, il était de position. C'est le système qu'on utilise aujourd'hui, nous, pour écrire 33, on utilise deux fois le même symbole, mais suivant la position où il se trouve, ce 3, il dit pas la même chose. Le premier 3 dit 3 fois 10, et le deuxième dit 3 fois 1. Les Romains, eux, utilisaient la numération romaine, les pays latins. Donc, pour dire 33, il y avait 3 X, mais chacun des X, quelle que soit la position, eh ben, va dire 10. Et puis, on rajoutait 3 barres verticales, qui, même chose, quelle que soit la position, ça voulait dire 3.
Donc, on pouvait mettre les 3 bâtons au premier, et puis après les X. Et que ce soit en fait dans un ordre ou dans un autre, ça voulait dire toujours 33,
ouais,
c'est ça que vous dites.
Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, quand on apprend aux élèves à l'école, par exemple, on va mettre 1 et X, ça veut dire 9, parce qu'il y a un principe de préposition, mais sur des vieux documents, un 1 et un X, c'est 11 en fait. Peu importe la place où se trouve le symbole, une barre voulait toujours dire 1, une croix ou un X voulait toujours dire 10, et puis il fallait simplement compter, accumuler tout ça, puis faire le total pour trouver le nombre. Et puis dans la troisième grande civilisation, qui était la civilisation byzantine ou grecque, le système est encore différent. Pour les chiffres de 1 à 9, il y a des lettres alphabétiques.
Des lettres ?
Des lettres.
Donc
alpha c'est 1, bêta c'est 2, gamma c'est 3, et puis on continue comme ça. Pour les nombres de 10 à 90, c'est d'autres lettres, et pour les nombres de 100 à 900, c'est encore d'autres lettres. Le seul problème, c'est que l'alphabet grec a 24 lettres, donc ils ont été chercher chez les Phéniciens trois autres lettres alphabétiques pour avoir un système de 20 à 27 symboles. Et donc 33, ça va être un lambda pour 30, et puis un gamma pour 3. Donc complètement différent. C'est des manières d'imaginer la numération qui sont complètement différentes, mais partout, ils montraient 33 en faisant la boucle d'un plongeur, hein, avec le pouce et l'index, et puis le 3 qu'on a vu avant avec les doigts pliés.
Et ça veut dire 33. Exactement. Chez les Byzantins, chez les Romains et chez
les Arabes.
Les Arabes, voilà. Dingue. Donc assez en fort, fait, hein. On se met d'accord que sur le chiffre 33, c'est ça?
Non, pour toutes les autres positions, on peut se mettre sur n'importe quelle autre position. Simplement, quand on écrivait un nombre en utilisant la numération, on avait des choses différentes. Mais quand on se parlait directement à l'aide de cette numération...
Voilà, mais ce geste-là de 33 était...
le même partout.
Le même partout.
C'est extraordinaire.
C'est vraiment curieux. Vous avez trouvé une raison à ça ou pas?
Alors, il y a forcément, comme c'est pas naturel, hein, on pourrait très bien se dire que compter 1, 2, 3 comme les enfants, on y voit quelque chose de naturel et on peut penser que c'est, spontanément, ça naît à différents endroits sans qu'il y ait eu des communications. Là, comme les gestes que je vous ai montrés sont pas du tout naturels, ce que ça montre, c'est qu'il y a eu des communications, que ces communications, elles ont engendré d'un côté ou de l'autre l'acceptation du système qui avait été présenté comme moyen de communication.
Mais alors aujourd'hui, Jérôme Gavin, on utilise tous le... Comment s'appelle notre système avec les chiffres?
La numération de position avec les chiffres qu'on appelle arabes.
Voilà, les chiffres arabes. Depuis quand c'est devenu un standard, on va dire, plutôt mondial? Je ne sais pas si les Chinois... enfin, voilà, les écritures plutôt orientales...
Alors d'abord, ces chiffres venaient d'Inde. Parce que les premiers savants arabes qui ont écrit sur ce système appellent ces chiffres les chiffres indiens. Et puis, pour qu'ils viennent en Europe, on est au début du XIIIe siècle d'abord. Mais ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que ces chiffres ne sont pas arrivés pour écrire des nombres. Parce qu'on, nous, aujourd'hui, on écrit des nombres avec. Mais si ils ont été popularisés en Europe, c'est parce qu'ils permettaient de faire un nouveau calcul. Avant, on calculait avec des cailloux, avec des tapis de compte.
Bon, bah justement, c'est le moment de sortir les objets. Je vois que vous avez un objet qui me semble être celui que vous allez décrire.
C'est pas celui-là.
Oh non. Bon, alors finissez votre phrase.
Mais en fait, en Europe, pendant des siècles et des siècles, calculer et représenter un nombre à l'aide d'une numération, c'était deux choses différentes. Avec les chiffres romains, on peut représenter n'importe quel nombre. Ça marche très bien. Donc on peut montrer 423, ben on va l'écrire, il n'y aura aucun souci. Par contre, il n'est pas possible de pratiquer le calcul avec ces chiffres-là. Et donc, ces civilisations, la civilisation romaine, avaient dû mettre en place autre chose pour calculer. Pour calculer, on recourait à des objets, c'était des choses pratiques. Et on utilisait notamment des cailloux.
D'ailleurs, calculare vient de cailloux, c'est ça?
Ouais, en fait, le petit caillou en latin, c'est calculi.
Comme les calculs rénaux.
Et comme les calculs rénaux qui sont restés des petits cailloux, et c'est l'origine étymologique du mot calcul. Voilà.
Laurent Bortoletti, je vois que ça vous embouche un coin.
Non, c'est passionnant. Enfin, oui, c'est très intéressant de découvrir ça, oui.
Des petits tas de cailloux, il en est question justement sur la table. Vous avez amené un petit, une petite pochette remplie de cailloux avec une planchette en bois. C'est l'objet que vous avez apporté pour parler d'une partie de votre parcours, Jérôme Gavin, ou pas?
Non, j'ai amené autre chose.
Bon, bah alors allez-y,
attendez,
sortez-le.
Je vais vous sortir. Je vous ai amené un dé. Voilà. Un dé à six faces, mais qui paraît un petit peu étrange, parce que sur ce dé à six faces, vous avez des chiffres arabes, justement, qui sont écrits, mais qui sont pas les chiffres arabes auxquels nous sommes habitués. Parce qu'une partie du monde arabe, notamment dans les pays du Golfe, utilise d'autres graphies. Et ce qui me plaît dans cet objet, c'est évidemment que des choses aussi évidentes que les chiffres qui nous semblent, cachent pas des mystères, mais des surprises. Et quand on s'y intéresse.
Impressionnant, Jérôme Gavin. Je vais donner le titre de votre deuxième ouvrage sur les doigts jusqu'à 9999, la numération digitale des anciens à la Renaissance. C'est vous, Jérôme Gavin et Alain Scherlig, aux presses polytechniques et universitaires romandes. Voilà pour votre deuxième ouvrage. Je me tourne vers vous, Laurent Bortoletti. Quel est l'objet que vous avez apporté, vous, alors?
Alors, l'objet que j'ai apporté, je le porte en ce moment à mes pieds.
Ah, voilà.
Voilà. Puisqu'il s'agit de mes chaussures de claquettes.
Donc, elles sont blanches.
Elles sont blanches. Elles ont énormément vécu. C'est avec elles que j'ai traversé l'Amérique centrale. Et puis, tout à l'heure, Jérôme, vous me demandiez si j'avais plusieurs paires de chaussures. Eh bien non, je n'en ai qu'une.
Vous travaillez toujours avec la même paire?
Toujours. Et je danse, je fais tous mes spectacles avec la même paire. Si vous voulez, c'est pour une raison très pratique, c'est que je m'habitue. Et lorsque je porte une autre paire, eh bien, il faut que je me réhabitue à cette autre paire. J'ai jamais, même modèle, j'ai, la sensation est différente dedans. Et pour cette raison, je n'utilise qu'une seule paire à la fois. Donc j'ai des vieilles paires, mais je les utilise pas.
Combien de temps vous allez...
Celle-là, je l'ai depuis, je dirais, 3 ou 4 ans déjà.
D'accord. Donc, et elle vous dure combien de temps?
Jusqu'à 5-6 ans. Une paire peut me durer jusqu'à 5-6
ans. Donc vous les bichonnez quotidiennement
Pas quotidiennement, mais j'en prends soin. Oui, j'essaie de les faire durer. Oui, oui, absolument.
Laurent Bortolotti, compagnie jazz et tap, danseur de claquettes, et Jérôme Gavin sont les invités de premier rendez-vous. Jérôme Gavin, mathématicien. Je vais y arriver, mathématicien. On va écouter Claire Laffut sur la première avec ce titre Nudes. Elle se met à nu. Dansante Claire Laffut sur la première avec ce titre News. Vous écoutez Premier Rendez-vous aujourd'hui dans l'émission Laurent Bortolotti et Jérôme Gavin. Laurent Bortolotti, vous êtes danseur de claquettes. C'est une passion, c'est une vocation. Alors pourquoi? Pourquoi c'est si important les claquettes dans la vie, Laurent Bortolotti?
Eh bien, en fait, il y a une constante dans tout mon parcours qui est la recherche de la liberté. Et c'est pour ça que je fais des claquettes. Recherche de la liberté par... envie aussi de rechercher qu'est-ce qui m'importe vraiment, vous voyez. Lorsque j'ai eu envie de faire des claquettes, je vous parlais au début de l'émission de ma passion pour le jazz. Pourquoi ça a été si important? C'est parce que j'ai découvert quelque chose qui m'importait, quelque chose que j'aimais. Et ensuite, tout au long de mon parcours, ça s'est répété. C'est-à-dire, vous avez mentionné le fait que j'ai commencé le conservatoire national à Berlin, que j'ai d'ailleurs quitté après...
Au bout d'une journée, assez rapide.
Au bout d'une journée, parce que j'ai senti que ça n'était pas ma voix, que ma voix était les claquettes. Ensuite, j'ai fait une formation je suis parti donc vivre aux États-Unis pour me plonger dans cet art, et j'ai fait à mon retour de voyage cette formation d'ingénieur en informatique, pensant que la liberté financière allait m'apporter la liberté artistique. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai renoncé à ce travail, à cette partie-là de ma vie, pour trouver vraiment qu'est-ce qui est important au fond de moi. Vous voyez, et le voyage dont je vous parlais juste avant, le voyage en Amérique centrale, c'était de nouveau ça, parce que oui, d'accord, être danseur de claquettes professionnel, c'est une chose, mais attention, vient tout de suite la pression de me dire, ah, il faut que j'assure, vous voyez. Et donc j'ai eu envie de faire ce voyage en Amérique centrale pour me mettre dans des situations où j'allais être confronté à cela, vous voyez, à ce questionnement-là. Dans le fond, c'est une envie de me libérer de tous les conditionnements. C'est pour ça que je fais ça.
En fait, les claquettes, c'est vraiment le dénominateur commun de toutes vos prises de conscience et de toutes vos étapes de vie.
Absolument.
C'est votre quête de liberté, ça passe par cette danse.
Exactement.
Qui est aussi une musique pour vous.
Oui.
On l'a compris. Laurent Bortolotti, donc en fait, vous êtes un homme libre grâce aux claquettes. C'est bien.
J'essaie
ça.
J'essaie d'être un homme libre.
C'est joli. Merci beaucoup Laurent Bortolotti pour ces précisions. Et je rappelle que vous serez justement en spectacle. Ça sera quand? On va retrouver la feuille où c'est écrit. Je ne sais
plus
où ça se trouve.
Alors,
voilà, c'est là. Le 21 novembre, Bébé's Machine, ce sera au Phoenix à Fribourg. Mm-hmm. Et puis ensuite, le 29 et le 30 novembre, plus le 1er décembre, au théâtre Interfaçation avec Panamericana Central. Voilà.
Absolument.
Tout
merci.
Est dit. Merci beaucoup d'être venu dans Premier Rendez-vous à la rencontre de Jérôme Gavin. Vous serez en conférence pour parler des mathématiques, de l'algèbre, etc. Ce sera où et quand, Jérôme Gavin?
Alors, le 22 novembre, nous intervenons à l'Université de Neuchâtel dans le cadre d'un séminaire qui s'appelle Mathématiques et Société, qui est ouvert à toutes les personnes intéressées. C'est le professeur Paul Jolissin qui organise ça.
Ce sera donc le...
Le 22 novembre 2019.
Très très bien, à l'Uni de Neuchâtel. Et puis encore...
Alors, on sera aussi au Cercle littéraire le 6 février 2020, à Lausanne. Et puis sinon, il y a d'autres possibilités, mais il suffit de m'écrire jérômegavin@blueine.ch.
Et bien voilà, c'est noté, jérômegavin@blueine.ch. Vous êtes aussi l'auteur avec Alain Cherlick des 7 paires du calcul écrit. C'est votre dernier ouvrage aux presses polytechniques et universitaires romandes. Merci aussi beaucoup à vous d'être venu ici, Jérôme Gavin.
Merci beaucoup.
Belle suite à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci,
je me tourne vers vous. Bonjour Pascal Bernheim.
Bonjour.
Alors, à l'abordage, quel est le programme?
Savez-vous où est la Mayenne?
Dans le Mayen,
non, c'est un département français, mais personne ne sait où il est. Eh ben, vous aurez la réponse dans À l'abordage.
Merci, c'est tout à l'heure après le Flash Info. Merci à José Moreno qui assurait en régie aujourd'hui. Il va être 15h sur la première. Très douce fin de journée à vous et à demain. Au revoir.